De Police Dead. On s'en parle demain. Midi, le Pit Stop. 14h, Gravel dans le retour. Bye.
Boulevard 102.1, la radio vivante. Qui vous fait vivre des trips à Vegas,
wow! Oui, c'est moi!
New York, San Francisco pour voir du baseball, du hockey, puis qui vous envoie un peu partout pour assister aux shows de vos bands préférés.
Et quelqu'un à avoir quelques années de radio derrière la cravate, moi je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi démentiel.
Puis qui organise même un show privé dans notre building pour voir Papa Roach. Pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble, puisque ce soir, j'ai un invité de feu, comme on a à mon habitude, Antoine Dionne Charest, qui en est pour une deuxième présence sur les ondes de Boulevard 102.1. Antoine Dionne Charest, c'est un consultant, c'est un chroniqueur politique, c'est un futur candidat. Député pour le Parti libéral du Québec. Et c'est aussi le fils de Jean Charest, là, si on veut le situer aussi. Il est là. Bonjour, comment allez-vous, M. Charest?
Salut Yannick, comment ça va?
Ça va très bien. La dernière fois qu'on s'était jasé, on avait parlé un peu de ce que c'était la vie d'Antoine Dionne Charest avec un père comme Jean Charest, une bête politique. Je vous avais achalé à savoir quand est-ce que vous allez vous présenter, est-ce que vous allez vous présenter à la chefferie du Parti libéral. Puis de l'eau a coulé sous les ponts, vous avez annoncé les mois suivants que vous allez être effectivement candidat comme député dans une circonscription que vous aurez choisie aux prochaines élections fédérales. Bon, il est 18h, hein? Il est un peu tard.
Provincial.
Oui, c'est ça. provincial, oui.
Oui, ben je tu sais, moi, ça fait 20 ans que je m'implique au PLQ.
Ouais.
J'aime la politique. Il y a plein de façons de contribuer à la société. Pour moi, c'est la politique parce que forcément, dans ma famille... contribuer, faire de la politique, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que comme bien des jeunes, j'ai eu la piqûre. J'ai envie de m'impliquer. J'aime le Québec. Je veux participer à la reconstruction du PLQ. Je pense que c'est important qu'il y ait une alternative à la CAQ. Je vois les autres partis politiques qui se préparent, qui s'organisent, qui préparent déjà la prochaine élection. Puis moi, je veux participer à la reconstruction du PLQ parce que je pense que, bien franchement, c'est le parti qui est véritablement capable d'offrir une alternative à la CAQ. Et puis, on a 2 ans devant nous. Le travail de reconstruction du PLQ n'est pas terminé. On a fait pas mal de choses, mais on doit encore, je pense, convaincre une majorité de Québécois de nous soutenir. Puis je veux participer à ça.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Parti libéral actuel, c'est un cheval mort qu'on essaie de réanimer puis qui va être difficile à réanimer dans les prochains mois, les prochaines années, où vous dites « on va faire quelques changements, on va amener un dynamisme nouveau au Parti libéral du Québec, puis on espère que les gens nous suivent? »
Je pense que la marque du PLQ est solide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je pense pas qu'en 2018, les Québécois ont rejeté les valeurs du PLQ. Je pense qu'ils en avaient assez. Je pense qu'ils voulaient tourner la page. Je pense qu'ils voulaient une alternative. Puis ça, c'est normal. Le PLQ a gouverné longtemps. Puis quand un parti est au pouvoir, il se renouvelle pas. Parce qu'il applique un programme. Forcément, il a été élu sur un programme. Quand il est dans l'opposition, c'est là où il arrive à se renouveler. C'est là où il se reconstruit. Puis c'est là où il y a des idées nouvelle. Mais non, je pense au contraire. Moi je pense que l'alternative qu'on offre, elle est solide, puis peut interpeller une majorité de Québécois. Puis sur les sondages, moi, je veux répondre directement à ça. On a gouverné pendant plus de 12 ans. Il y a des choses qu'on a bien faites, puis il y a probablement des choses qu'on a moins bien faites. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a réalisé. Et surtout, les Québécois, ils ont dit une chose toute simple. Là, allez vous rebâtir. Allez faire vos devoirs, renouvelez-vous, choisissez-vous un chef, 2, une nouvelle génération, et 3, des nouvelles idées. Ça ne peut pas être une pâle copie de ce que la CAQ offre. Ça, franchement, si on se contentait de ressembler un petit peu à la CAQ ou aux autres partis politiques, je ne suis pas sûr que les Québécois voudraient de nous si c'était ça qu'on leur offrait. Donc, on va avoir une course au leadership. J'espère que ça va être un débat d'idées. J'espère que les Québécois vont s'y intéresser. Je pense qu'il y a des candidats de qualité là. Puis je pense que la course va être déclenchée en janvier 2025. Mais une fois une nouvelle génération, puis il y a une nouvelle génération. Je pense que tu as interviewé il y a quelques semaines le président du parti, Raphaël Primo-Ferraro.
Oui.
C'est quelqu'un qui a mon âge. C'est quelqu'un qui a milité au PLQ. C'est quelqu'un qui croit au PLQ puis fait partie de la nouvelle génération de libéraux comme moi.
Mais quel devrait être le plan? Parce qu'on regarde l'état actuel du Parti libéral du Québec, c'est beaucoup centré dans le secteur de Montréal. Là, vous allez me dire, oui, mais Montréal, on est 3-4 millions, Yann. Effectivement, vous êtes 3 millions quand on sort de l'île puis on calcule tout le monde autour. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne rentrez plus dans les régions, vous ne rentrez plus dans la capitale nationale? Pourquoi il y a eu une déconnexion comme ça avec les gens qui sont à l'extérieur de Montréal?
Premièrement, c'est vrai que pendant la dernière élection, je pense que dans bien des régions au Québec, on n'était même pas une option pour les électeurs. Je pense qu'il y avait des électeurs qui avaient été... Mais même à Montréal, je pense au PCQ puis à Éric Duhaime, ben, il y a certains électeurs à Montréal qui ont été intéressés par ce que proposait Éric Duhaime. Moi, j'y crois pas, mais l'important, c'est que il y a beaucoup de partis politiques. La politique québécoise a beaucoup changé. On n'est plus dans un environnement où il y a juste deux partis. Il y a deux options. Souveraineté, c'est PQ. C'est fédéraliste, c'est le PLQ. On n'est plus du tout dans cet univers-là politique. Ça a beaucoup changé. Et la CAQ, je pense qu'ils ont réussi leur pari à ce moment-là. Ils disaient, nous, on est la troisième voie. On n'est ni fédéraliste, ni souverainiste. Va savoir ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas trop sûr de savoir parce que c'était ni fédéraliste, ni souverainiste. C'est comme le gars qui est marié, à qui tu demandes, t'es-tu marié, puis il dit, moi, je me prononce pas. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ils ont gagné électoralement. Ils ont gagné leur pari. Alors, tu sais, je reviens sur mon point de tout à l'heure. Je pense que la défaite a été brutale parce qu'après avoir gouverné aussi longtemps, les Québécois voulaient passer à autre chose. Puis je pense que parfois, on s'est pas suffisamment renouvelé. Mais encore une fois, un parti, ça se renouvelle-tu vraiment quand c'est au pouvoir? La réponse, c'est non. Peut-être qu'on a gouverné un peu trop longtemps. Peut-être. Mais... au fond, c'est du temps qu'on n'a pas eu pour se rebâtir, pour se reconstruire, puis pour laisser une nouvelle génération émerger. Une chose est sûre, là, on a une occasion. Là, il y a une profonde impopularité vis-à-vis de la CAQ, surtout à Québec. Nous, il faut qu'on se prononce sur les enjeux. Je pense au transport, par exemple. Je pense l'enjeu de transport à Québec, mais pas seulement. Je pense à l'économie. Je pense aux services publics. Ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde aujourd'hui. La CAQ s'était fait élire avec le mandat de dire on va améliorer la qualité des services publics en santé notamment. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je pense pas. Je pense que ça, c'est un vrai sujet pour les partis politiques puis pour le PLQ. Qu'est-ce que le PLQ pourrait proposer en matière de services publics qui améliorerait la situation? Moi, je pense qu'on a une occasion, là, mais il faut qu'on se positionne sur les enjeux, il faut qu'on parle aux Québécois puis qu'on réponde à leurs préoccupations. C'est ça notre job, c'est ça la job de l'opposition. Les autres partis le font bien. Nous aussi, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire, mais encore faut-il qu'on se prononce sur les enjeux qui concernent et qui répondent aux préoccupations des Québécois. C'est ça notre défi. Je pense qu'on est capable, de le faire.
Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne se bouscule pas aux portes pour prendre la chefferie du Parti libéral du Québec actuel?
Je suis pas sûr de ça. Écoute ça. Je peux-tu faire une critique, mais c'est pas envers toi, mais une critique envers les commentateurs. Moi aussi, j'en suis un, là. Pendant des mois, on disait ça se bouscule pas au portillon pour se présenter à la course au leadership du PLQ. Il n'y a pas de candidat. Ce parti-là n'intéresse pas personne. Là, on met de côté si on aime les candidats ou pas. Denis Coderre, qu'on l'aime ou pas, c'est quelqu'un de crédible. Il a une expérience. Il a été maire de Montréal. Si quand il se décide de se présenter, ça suscite de l'intérêt. Il y a Pablo Rodriguez qui, selon toute vraisemblance, aimerait se présenter. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a été ministre au fédéral, il y a une feuille de route politique. Je pense à Charles Milliard, Fédération des chambres de commerce du Québec. Ça, c'est des...
Bon. Candidature très intéressante pour ce qui est de Charles Milliard, mais il y a un déficit de visibilité. Là. Les gens ne le connaissent pas du tout. Là.
C'est vrai. Mais il y a une chose, je pense qu'il l'a compris. Puis c'est pour ça qu'il est candidat, c'est pour ça qu'il a quitté ses fonctions à la Fédération des chambres de commerce du Québec et qu'il se consacre à temps plein à la course. Ça, c'est quelqu'un qui incarne l'avenir du parti. Je rajoute à ça Fred Beauchemin, député du caucus. Lui, sa priorité, c'est l'économie, les finances publiques. Ça fait quand même pas mal de candidats. Je pense que c'est des candidats de qualité. C'est des gens qui représentent l'avenir du parti. Bon, M. Coderre est moins... M. Coderre est plus vieux, mais tu sais quoi? Moi, ça m'intéresse moins de savoir quel âge il a, la couleur de ses cheveux, de quelle région il vient. C'est le style, c'est les idées. Est-ce que... moi, ce que j'aimerais, comme militant du PLQ, c'est qu'on puisse avoir une course où il y a des débats, peut-être des clashs d'idées sur la vision du Québec puis la vision du PLQ, puis qu'on sorte, on se dise, bon, ben là, on a choisi. Voici, on a choisi le candidat qui incarne l'avenir, le chef qui incarne l'avenir. Nous, c'est de ça dont on a besoin. Fait que ma critique, au fond, c'est de dire, faites bien attention, là, il y a des candidats de qualité, il va y avoir 5 débats, dont un débat à Québec. Je pense que ça va être très intéressant. La course n'a pas commencé, du moins pas officiellement.
Dans le cas de M. Milliard, moi, c'est le candidat que je vois avec le plus de potentiel actuellement qui a mentionné vouloir être de la course. Pour ce qui est des autres, je pense que Denis Coderre, avec ses déboires avec les ministères du Revenu, j'ai trouvé ça un petit peu particulier. Puis j'ai l'impression, est-ce que les Québécois vont lui pardonner? Est-ce que son propre parti va lui pardonner? Bon, je lui souhaite la meilleure des chances, mais je pense que quand tu n'es pas capable de gérer tes finances personnelles, tu ne peux pas être. À mes yeux, à moi, tu ne peux pas essayer de démontrer une certaine crédibilité à gérer les finances du Québec. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Mais M. Milliard, on a hâte de l'entendre. Est-ce que, d'ordre général, est-ce que vous avez déjà constaté dans les dernières années une déconnexion entre les politiciens et les citoyens en général?
C'est certainement un sujet pour bien des gens. Il y a un sentiment qu'il y a une certaine déconnexion entre les gens... Québec, les gens en région. Et là, je parle de toutes les régions parce que quand on est à Québec, on n'est pas à Montréal. Quand on est à Québec, on n'est pas au Saguenay ou ailleurs. C'est un thème politique. C'est un thème qui est surtout utilisé par les populistes. Puis quand je dis populiste, pour moi, c'est pas un gros mot, là. Je dis ça, tu sais, parce que le thème d'être anti-élite, c'est souvent un thème qui est utilisé par ceux qui ont un style plutôt populiste. Mais en même temps, la CAQ ont fait de très grosses erreurs politiques et ils en paient un prix très fort.
Comme?
Alors, par exemple, je pense au troisième lien, je mets de côté l'enjeu de fond, mais les tergiversations, là, on le fait pas, on perd une élection partielle à Québec, à Jean Talon, finalement on le fait, on le fait pas. Je pense qu'ils vont le payer très lourdement. Je pense que les citoyens, je pense que pour bien des gens, ils sont prêts à accepter que, un, leurs élus sont pas parfaits. Deux, parfois, ils s'engagent de bonne foi sur des promesses puis ils les tiennent pas pour des mauvaises raisons, mais ils se disent « je suis arrivé au pouvoir, je me suis rendu compte que ça marche pas bien ». Puis ça serait irresponsable pour moi d'aller de l'avant parce que ça ferait plus de tort que de bien, mais de reconnaître leurs erreurs. Mais aussi sur certains sujets, quand tu t'engages sur quelque chose, tu dis que tu vas le faire, tu dis que tu vas pas le faire, je pense au troisième lien, mais à bien d'autres sujets, à un moment donné, les gens se disent « ça va faire ». C'est une chose d'avoir tort, c'est une chose de t'excuser, on est capable de l'accepter, là. Mais arrête de nous vendre des salades puis de nous dire tout et son contraire. Moi, je ne sais pas dans la région de Québec comment la CAQ va faire pour s'en sortir à la prochaine élection. Moi, je pense qu'ils sont faits. J'ai pas de preuve de ce que j'avance, là. Mon intuition, là, je pense qu'ils sont faits. Je pense qu'ils vont être lourdement sanctionnés parce qu'ils sont au-delà de ne pas avoir tenu leurs promesses, là. Ils ont dit tout et n'importe quoi. Alors, cette déconnexion-là, quand les gens sont frustrés, ils l'expriment dans les urnes. Puis je pense qu'ils vont l'exprimer pour la CAQ, mais ça peut s'appliquer à d'autres gouvernements. Mais c'est assurément un thème aujourd'hui en politique auquel il faut que les élus répondent.
Oui, parce que la coalition Avenir Québec était persuadée de gagner les élections partielles dans Jean Talon, puis finalement, ils se sont fait ramasser ce comté-là par un député du Parti québécois, Pascal Paradis, que j'ai rencontré la semaine dernière. Puis je ne sais pas si c'est un problème de communication à l'interne entre le Koskinen et François Legault, mais dès le lendemain, on sentait un François Legault qui était très, très, très ébranlé. Même le soir, même, avait dit ben, on aurait peut-être dû écouter la population. Il avait commencé déjà à changer d'idée alors qu'il nous avait donné ses orientations avec Geneviève Guilbeault quelques semaines auparavant en disant le troisième lien, c'est terminé. Et là, ils se font mettre dehors et tout d'un coup, pouf, ils commencent à penser comme la population des gens de Québec, c'est-à-dire oui, le transport en commun, on a besoin d'un transport en commun efficace, pas à n'importe quel prix. Et finalement, ben, à long terme, il va falloir avoir un deuxième lien viable à long terme. Donc ça, c'est ce que les gens de Québec pensent. Là, avoir un deuxième lien fiable à long terme qui va permettre d'avoir une boucle autour de la capitale nationale. Donc s'il y a une catastrophe pour ce qui est du pont Laporte, ce qu'on ne souhaite pas, mais on peut passer par un autre endroit. Parce que très peu de politiciens savaient à cette époque-là que les camions n'ont pas le droit de passer sur le pont de Québec. Ce qui occasionnait, en cas de catastrophe, un détour de 200 km par Trois-Rivières. Et ça, ça a été mon cheval de bataille autant dans mon ancienne vie radio que celle que je vis ici sur les ondes de boulevard. À chaque fois qu'on me parlait du troisième lien puis qu'on m'amenait des arguments qui étaient on nous disait, bon, mais vous savez, c'est la science. Nos experts nous disent que si on a un troisième lien, ça va augmenter le parc de voitures. Il y a une certaine logique à ça. Mais advenant le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte, est-ce que la capitale nationale mérite que ces camions fassent des détours de 200 km par Trois-Rivières? Je trouvais que c'était totalement inacceptable. Mais cela dit, juste pour vous dire, la déconnexion entre la population de Québec et la CAQ, à partir du moment où la CAQ ont perdu Jean Talon, tout d'un coup, Geneviève Guilbeault a commencé à penser comme la population des gens de Québec. Ah, ben le tramway, oui, le tramway, mais il est peut-être un peu trop cher. Là, finalement, on a retiré le dossier du tramway au maire, puis on a décidé de l'amener au niveau provincial, puis on dit on va le faire. Et là, finalement, ben, le troisième lien, on va le faire aussi. C'est comme s'ils avaient compris que sans la population, ils ne pouvaient pas être réélus, alors que c'est une évidence, là. Si vous n'avez pas la population de votre bord, vous ne vous ferez pas réélire. Et là, curieusement, dans la circonscription Jean Talon, ils ont mis un péquiste là qui est anti-troisième lien.
c'est dire la colère des gens, ouais. Même si, tu sais, puis on l'oublie souvent, là. Bon, moi, je ne suis pas de Québec, là, mais la rive sud de Québec, là, ils sont franchement excessivement frustrés à l'endroit de la CAQ. Un autre exemple, tu parles de déconnexion, parce qu'il y a la déconnexion, il y a un enjeu, ça c'est un débat, mais il y a aussi celui de l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Je vais donner un exemple très précis. Le virage numérique de la SAC, on l'a oublié, là, mais ça a été épouvantable. Quand la SAC a fait son virage numérique, les gens ne pouvaient pas se présenter au bureau pour renouveler leur plaque d'immatriculation, difficulté à obtenir un permis. Ça a été un vrai bordel, franchement. Et le PDG à l'époque, le haut fonctionnaire qui était responsable de la CAQ, de la SAC, n'a pas été mis à pied. Il a été muté. Il est allé ailleurs. Mais moi, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Comment se fait-il? Puis moi, je ne suis pas anti-fonctionnaire et je n'aime pas ce discours-là. Mais quand des hauts fonctionnaires sont responsables de transition ou de changement majeur dans le gouvernement ou dans les structures, il faut qu'ils soient imputables. Quand il y a des catastrophes là, comme la SAC, il faut qu'il puisse être imputable. Il me semble que ça n'a pas d'allure. Et moi, j'ai une déclaration de Geneviève Guilbeault sur ça qui m'avait choqué. Elle avait dit, elle était revenue d'un voyage à l'international pour ça, elle avait dit, les gens s'en foutent de qui est responsable. Elle était ministre des Transports. Elle dit, les gens s'en foutent de savoir qui est responsable. L'important, c'est de régler la situation. Ben non. Il y a le principe de responsabilité ministérielle. Peu importe ce qui se passe dans ton ministère, que tu en sois responsable directement ou pas, c'est toi le patron. Ben, c'est toi le patron, tu assumes la décision. Tu démissionnes, tu t'excuses, tu ne fais pas juste régler le problème ou dire les gens s'en foutent de qui est responsable. Fait que moi, l'imputabilité des hauts fonctionnaires quand il y a des catastrophes comme la SAC et le rôle des ministres aussi, ça, c'est un vrai sujet. Moi, ça, tu me parles de déconnexion, là. Moi, quand j'entends des ministres dire c'est pas mon problème alors que c'est leur problème, là, oui, ça me dérange. Pas franchement, ça me dérange.
Puis une bonne connexion aussi avec les maires des villes avoisinantes. Là. Je regarde la relation entre Bruno Marchand à Québec et la Coalition Avenir Québec. C'est une catastrophe actuellement. Là. On lui a pas, on lui a pas donné ce qu'il voulait. M. Marchand a boudé un peu, a critiqué la CAQ. La CAQ n'aime pas se faire critiquer par le maire. Et là, ces deux paliers-là ne semblent pas pu se parler. Geneviève Guilbeault et le maire Marchand à ne pas présenter dans la même pièce. Actuellement, ça va pas super bien à la CAQ, mais on parlait de la déconnexion entre les politiciens puis entre les politiciens et les citoyens. Tu sais, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Philippe Couillard où il m'avait mentionné que lui, tout le monde dans son entourage lui parlait du tramway. Et là, j'avais dit, mais c'est parce que, M. Couillard, j'habite à Québec, personne ne parle du tramway, personne ne veut le tramway. Et vous me dites, ben tout le monde parle de ça. Ben, parce que, tu sais, sortez de votre environnement, sortez dans les rues, allez jaser avec les citoyens, allez jaser avec les chauffeurs de taxi, allez jaser avec les gens du RTC. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens qui prennent le transport en commun? Ils ont besoin de quoi? C'est quoi les choses à améliorer? Mais M. Couillard, ce qu'il me disait, c'est que tout le monde, il parlait du tramway, personne, il parlait du troisième lien, alors que moi, j'habite ici, c'était tout à fait le contraire. Donc, j'avais constaté une déconnexion à ce moment-là. Philippe Couillard était un libéral, et je me disais, mais comment ces gens-là sont... Comment ils font pour s'entourer de gens qui feront pas en sorte qu'ils vont rester comme dans leur petit endroit étroit avec des gens qui pensent juste comme eux. C'est important de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur sur le plancher des vaches, que ce soit en santé, que ce soit en transport. Tu sais, j'ose croire qu'un jour, Christian Dubé a été dans un hôpital pour voir comment ça se passe. Jaser avec les préposés aux bénéficiaires. « Hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ton travail? » J'ose croire que Christian Dubé le fait avec les infirmières. J'ose croire qu'il le fait avec les médecins, mais... Je me dis probablement qu'ils ne l'ont pas fait. Probablement que c'est des hauts fonctionnaires qui leur parlent. Puis Christian Dubé, ben lui, c'est un comptable. Il a dû faire face à ses fonctionnaires en disant ah, « ben, c'est ça qu'on pourrait améliorer ». On me dit que le gars travaille 7 jours sur 7. J'espère juste qu'il était dans les hôpitaux. Mais jusqu'à maintenant, les mémères qui me parlent dans les oreilles me disent que Christian Dubé, il n'est jamais vu dans aucun hôpital de la région de Québec. Là.
Et la santé, là, ça, c'est un sujet. D'abord, parce qu'on est une population vieillissante, puis parce que les services, la demande en matière de services de santé, de soins sociaux ne va faire qu'augmenter. On s'est beaucoup engagé, quand je dis on s'est beaucoup, les partis politiques, les élus, de bonne foi, on a cherché des solutions. Il y a une chose qui, à moi, me dérange. J'ai pas de réponse. J'ai pas de solution, mais il y a une chose qui me dérange, c'est qu'on a tendance au Québec à vouloir faire des grandes réformes en santé, puis c'est toujours la même approche. Ça part du haut, ça descend vers le bas. Ça part du haut, ça part du ministère de la Santé, puis ça descend vers le bas, vers les hôpitaux, les GMF, les CIUS, les SUS. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est toujours la même, c'est toujours la même approche. Alors que la réalité de chacune des régions en matière de santé, comme bien des sujets, n'est pas la même. Elle n'est pas la même sur la Côte-Nord. D'ailleurs, il y a des gros enjeux en matière d'offres de services sur la Côte-Nord qu'à Montréal ou à Québec. L'approche qui consiste à partir du haut et prendre toutes les décisions du haut pour vers le bas, ça ne semble plus marcher. Ça, franchement, parce que la réalité n'est pas la même d'une région à l'autre et d'un hôpital à l'autre. Or, tout ce qu'on a fait, c'est centraliser. C'est quoi Santé Québec? Puis franchement, j'espère que ça va fonctionner parce que j'aimerais ça que le système de santé fonctionne mieux, là, indépendamment de qui a mis sur pied Santé Québec. Mais Santé Québec, c'est un mammouth. Santé Québec, là, puis d'ailleurs, c'est intéressant. Depuis la création de Santé Québec, à chaque fois qu'il y a un enjeu en matière de santé dans l'actualité, c'est encore le ministre de la Santé qui répond. C'est encore le ministre de la Santé qui intervient. Hein. C'est dire la culture. Mais la culture qui consiste à faire des grandes réformes du haut vers le bas, ça, je pense qu'il va falloir réfléchir autrement. Est-ce que j'ai la solution? Non. Mais il me semble que cette approche-là ne fonctionne plus. Il va falloir repenser autre chose en fonction des besoins, des particularités de chaque région. Elles ne sont pas les mêmes. Maintenant, M. Dubé, il peut avoir le portrait sans aller sur le terrain, mais moi, je suis bien d'accord. Moi, je pense qu'il devrait être sur le terrain, il devrait l'être davantage. Puis, il va falloir penser différemment quand on parle de santé au Québec, parce que ça, franchement, les gens sont très, très cyniques aujourd'hui. Mais, peu importe ce qu'on va proposer.
Juste de se poser la question à l'inverse, parce que là, ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent vers les services publics plutôt que les fameuses agences privées. Puis il doit y avoir une certaine logique à tout ça, ça je le comprends. Mais juste de se poser la question, qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à abandonner toutes leurs conditions exceptionnelles qu'ils ont dans les services publics pour abandonner leur fonds de pension, puis s'en aller pour une agence pour une agence privée qui va distribuer les infirmières avec des taux horaires qui ont du bon sens à leurs yeux et dans des endroits où ils vont faire uniquement leur quart de travail. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas ce geste-là. Plutôt que de vouloir tuer les agences, ben, jaser avec les agences, jaser avec les infirmières. Puis pourquoi vous êtes parti du service public puis vous êtes allé dans une agence privée? Ils vont vous le dire. Ma propre conjointe est infirmière clinicienne. Puis la chose qu'elle déteste le plus, c'est le temps obligatoire. Je veux dire, quand on est une mère de famille ou un père de famille, le temps obligatoire forcé, parce que c'est un temps forcé, là, on est supposé de terminer à 16h, exemple. Il faut aller chercher les enfants au CPE à 16h30 ou à 17h. Et là, on nous dit, notre supérieur dit, ben vous devez rester à l'hôpital. Oui, mais je peux pas, j'ai mes enfants. Et je veux dire, dans les agences privées, ça arrive pas, ça. Donc peut-être que Christian Dubé pourrait avoir une oreille attentive en se disant, hey, eux autres, ils offrent peut-être quelque chose qu'on pourrait offrir plus tard, des horaires qui ont du bon sens. Mais je ne comprends pas comment ça que ça se fait pas, alors que c'est une logique d'agir comme ça. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller chez le voisin? Bien, si on est capable de reproduire ce qu'il y a chez le voisin et on l'amène chez nous, ces gens-là devraient revenir.
Abolir les agences privées, comme le fait le gouvernement, là, ça a eu un résultat très concret. Ça fait en sorte que sa Côte-Nord, ils ont dû fermer des unités. et qu'il ne pouvait pas offrir certains services et qu'il devait envoyer des patients vers Québec. C'est ça que ça a fait. L'argument, maintenant, la position du gouvernement consistait à dire que les agences privées, un, prennent une trop grosse part et que ça coûte trop cher, qu'il y a quelque chose d'excessif dans les tarifs des agences privées. Mais je pense que c'est l'approche, encore une fois. Encore une fois, c'est la décision du ministre. C'était le ministre qui est allé défendre l'approche et qui a dit les agences privées, mais qui est allé dire, ben non, là, on met fin aux agences privées. Encore une fois, c'était une approche du haut vers le bas. Franchement, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est, je pense que l'enjeu, au fond, il y a le salaire, mais les conditions de travail. C'est les conditions de travail en santé. Je pense que c'est un vrai sujet pour une majorité de gens, que tu sois infirmier, médecin ou pas. Mais encore une fois, si l'approche consiste à dire, ben, ça va, les décisions vont se prendre à Québec, et que si on tient pas, et puis ensuite, si on prend des décisions qui sont abruptes comme celles des agences privées, moi je suis bien d'accord. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des solutions plus simples. Que ce soit les conditions de travail, que ce soit la flexibilité au travail, plus simple que ce qu'on fait actuellement. J'y crois pas. Mais on est encore toujours dans l'approche de grandes réformes, de grandes transformations, puis il y a toujours les mêmes blocages habituels. Il y a un enjeu pour le citoyen ordinaire, puis pour les gens comme toi et moi, c'est l'accès. J'ai pas envie de me casser une jambe, j'ai pas envie d'aller à l'urgence. Parce que c'est ça, là. Bien des gens n'ont pas de médecin de famille. C'est une angoisse, là, parce que tu ne sais pas vers qui tourner si tu as un pépin, c'est l'accès. Il y a un enjeu au niveau de l'accès pour le citoyen ordinaire. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Mais tu vois, ça, moi, j'aimerais que les partis politiques s'engagent et expliquent comment, au lieu de faire des grandes réformes, ils sont tout simplement capables de faciliter l'accès des citoyens à un médecin de famille, à une infirmière, et sur tout le territoire. Et enfin, c'est un sujet, je pense, sur lequel les partis politiques doivent offrir des services. La CAQ s'est engagée assez fortement en 2018 à améliorer l'accès aux services publics. Ce qu'ils ont créé, c'est des grosses agences. Ils s'étaient engagés parallèlement à réduire la taille de l'État, notamment moins de fonctionnaires. Il y en a plus aujourd'hui.
Ils l'ont augmenté, effectivement.
Ils ont augmenté le nombre de fonctionnaires. Ils ont créé des agences. Je ne suis pas contre le fait de créer des agences. Mais si ta réponse pour améliorer l'accès et la qualité des services, c'est on va engager plus de monde, on va mettre plus d'argent, puis on va créer plus d'agences, on se rend compte que sur le terrain, là, dans la vie quotidienne des gens, quand ils ont besoin de voir un médecin, ben malheureusement, ça ne suffit pas ou c'est pas la bonne approche. Moi, je pense qu'il doit y avoir des solutions bien plus simples. Pour le citoyen ordinaire.
Antoine Dionne Charest, j'ai le goût de vous achaler un peu, fait que je vais le faire. C'est mon style de vous achaler.
Vas-y. Donc,
je vais le faire. On est les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord. On paye énormément de taxes et on constate en tant que contribuable qu'on n'en a pas pour notre argent puis que le gouvernement en a toujours besoin de plus. Alors qu'on a l'impression que la classe moyenne est en train de se presser et même de diminuer. Là, la classe moyenne est en train de s'appauvrir et les gouvernements disent, entre autres Bruno Marchand, gouvernement municipal, qui dit, nous, on va aller chercher un montant supplémentaire sur l'immatriculation, on va aller chercher un 60 $ supplémentaire. Donc, la taxe sur l'immatriculation va passer pour le transport en commun, elle va être rendue à 90 $. Donc, c'était déjà 30 $ depuis des décennies, puis on ajoute 60 $, ça passe à 90. Et on n'a pas fait le ménage au RTC, qui est notre service de transport en commun à Québec. On n'a pas fait le ménage, mais on a dit, on va mettre un montant, puis ça va être ça. Ça va nous rapporter 18 millions par année, excusez-moi. Ça va nous rapporter 18 millions par année. Puis on va le mettre sur le réseau de transport en commun, qui est déficitaire de 40 millions encore une fois cette année. Et comment se fait-il qu'on soit les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord, puis qu'on n'en ait pas pour notre argent, puis qu'on constate que en santé, en éducation, dans nos infrastructures, il manque encore énormément d'argent, puis ça fuit de toutes parts. Comment on va faire pour redresser le Québec? Comment le Parti libéral pourrait arriver en place puis dire, ben voici par quoi on va commencer?
C'est une question qui est difficile, mais premièrement, on a fait un choix au Québec. On a fait un choix d'avoir un État qui est plus généreux, plus de services publics, des garderies, je pense aux garderies par exemple, je pense au crédit d'impôt pour les familles, mais je pense on a fait un choix d'avoir plus de programmes sociaux. Et donc forcément, il faut les payer. Et puis, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on ait davantage de programmes sociaux à une condition, il faut qu'on soit en mesure de les payer. Mais alors, forcément, ça se répercute sur les gens comme toi et moi. On paie plus d'impôts pour les programmes sociaux. Et vu qu'on paie plus d'impôts et qu'on paie plus de taxes pour ces services-là, on s'entend quand même à ce que ces services-là, on puisse y avoir accès. Tu vois, je parlais d'accès tantôt, c'est quand même... Et que ça soit et qu'il soit de qualité. Augmenter une taxe, c'est pas une... de manière générale, augmenter une taxe, c'est pas une politique économique, là. Augmenter une taxe, c'est pas comme ça que tu génères de la croissance. Moi, il y a une chose qui me frappe et ça s'applique autant aux libéraux à Ottawa qu'à la CAQ à Québec. Comment se fait-il que quand l'État cherche des revenus supplémentaires, son premier réflexe est de se dire on va augmenter les taxes ou les villes, on va augmenter les taxes sous certains tarifs. Ça, c'est pas une politique de développement économique. Et comment se fait-il que c'est toujours le même réflexe, plus de taxes, plus de tarifs et pas plus de croissance? Autrement dit, on fait comment? On fait comment pour mieux soutenir les entreprises, pour qu'ils créent plus? Il y a un enjeu majeur de productivité au Canada et au Québec en particulier. C'est pas que les gens travaillent pas assez d'heures, c'est que parfois on manque d'outils, on manque de savoir-faire, par exemple, pour innover. C'est ça les entreprises. Puis là, je parle de grosses entreprises comme de petites entreprises, mais surtout des petites entreprises. J'ai comme l'impression qu'on a un peu perdu le fil de ce qu'on voulait, c'est-à-dire si on veut des services publics qui sont plus généreux au Québec qu'ailleurs, encore faut-il pouvoir les financer, point un. Deux, comment on fait justement pour augmenter les revenus de l'État sans taxer le monde? Ben, si on le fait sans taxer le monde, il faut qu'on ait des politiques qui créent de la croissance. Bon, est-ce que c'est de la réglementation avec les entreprises? On fait comment pour mieux soutenir les entreprises? Moi, je peux te dire une chose. Le gouvernement du Québec donne une panoplie de crédits d'impôt à toutes sortes d'industries. Et souvent, ce sont les mêmes gros joueurs qui bénéficient des crédits d'impôt et ça ne touche pas les plus petits joueurs. Mais il n'y a pas mille et une solutions. Il faut un système d'éducation qui est performant. Il faut s'assurer d'offrir des formations toutes professionnelles. Là, je ne parle pas juste universitaire, hein, je parle au niveau professionnel. Il faut s'assurer qu'on ait des cerveaux bien formés, qu'on ait, on parle beaucoup d'immigration, il faut s'assurer que, par exemple, le secteur de la réglementation, l'enjeu du logement, là, s'il y a plus de gens dans les rues aujourd'hui, c'est qu'il manque de logement. Il y a un enjeu de productivité en matière de logement. Il y a de pénurie de main-d'œuvre, tu sais. Mais encore une fois, si on ne veut pas augmenter les taxes et les impôts, il faut qu'on se dise, bon, on fait comment pour créer de la croissance puis augmenter les revenus de l'État? Ben, ça ne sera pas en imposant plus de taxes. Ça, une chose est sûre. Et je ne vois pas, franchement, à l'heure actuelle, de politique très claire de la part du gouvernement, sauf mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans la filière batterie. Et ça m'inquiète parce que vu les transformations du secteur, là, de la voiture électrique, ça m'inquiète parce que est-ce que la filière batterie au Québec, je pense à Northvolt, est-ce que ultimement ça va générer plus de croissance? Je ne sais pas, mais on a mis beaucoup d'argent là-dedans.
Mais juste de prendre en considération la capacité de payer des contribuables, tu sais, je ne me sens pas écouté en tant que contribuable et je trouve que c'est de nous prendre pour des cons quand on augmente une taxe sans nécessairement faire le ménage à l'interne. C'est des dossiers un peu plus locaux de notre côté, M. Diane Charest, mais de notre côté, il y avait un audit de performance qui a été demandé par Geneviève Guilbeault concernant le RTC. Ben, l'audit de performance n'a pas été rendu public et le maire Marchand a augmenté la taxe quand même. Avant même d'avoir reçu l'information, c'est-tu performant le RTC? Y a-tu des endroits où on peut couper? Y a-tu des départs à la retraite qu'on n'a pas besoin de remplacer? Parce que moi, l'idée, c'est, bon, le fonctionnaire est là, il reste 5 ans à faire, je ne vais pas le mettre dehors. Mais si c'est terminé pour lui, puis je peux le remplacer par un fonctionnaire plus jeune, ben, je vais attendre qu'il y en ait un autre qui quitte, puis là, ben, ça va être un pour deux, comme on avait fait dans le temps. T'sais. Mais oui. C'est jamais ça. C'est on va augmenter les taxes, puis ça va régler le problème. Mais savez-vous quoi? Je ne sais pas si c'est parce que je suis trop jeune encore, malgré le fait que je suis dans la quarantaine, M. Diane Charest, mais j'ai jamais vu une taxe qui a réglé quelque chose au Québec. Ça jamais arrivé.
Non! Les taxes, c'est pas mauvais en soi. Les impôts, c'est pas mauvais en soi. Mais c'est pas... Je veux dire, si c'est ça ta politique économique, là, ou une manière de créer de la croissance puis d'enrichir les gens, c'est pas comme ça que tu permets aux gens de s'enrichir. Et c'est... Moi, je suis bien d'accord. C'est ce qui manque actuellement. On veut continuer de financer nos services publics. D'accord. On pourrait très bien accorder un plus grand rôle au privé dans bien des secteurs, tout en conservant le service public. Par exemple, On pourrait envoyer davantage de gens dans le privé pour ce qui est de la santé. C'est financé. C'est-à-dire, tu ne payes pas, c'est un système universel, mais on délègue plus de services au privé. Le gouvernement le fait déjà. Si ça permet d'être plus efficace, pourquoi ne pas le faire? Ça, c'est un exemple. Mais moi, je suis bien d'accord avec toi. Des taxes ou des impôts, ça ne peut pas être un programme. Je vais donner un exemple, une chose qui m'a beaucoup dérangé, la taxe sur le gain en capital. Dans le dernier budget du gouvernement Trudeau, ils disent qu'ils vont augmenter la taxe sur le gain en capital. Qu'a fait le ministre Girard 2 semaines après? Il a augmenté la taxe sur le gain en capital au Québec. Alors, l'argument, c'est que ça ne touche pas grand monde. Ben, je ne sais pas, mais ça touche beaucoup de monde qui ne sont pas particulièrement riches, mais qui ont une chose, ils ont un logement. Ils ont un patrimoine, c'est un logement, un duplex ou une maison. Et encore une fois, on décide d'augmenter pour financer nos services publics, soi-disant, on décide de pénaliser ces gens-là. Ça peut pas être la solution.
Est-ce que vous pensez qu'un jour au Québec, M. Dionne Charest, on pourra avoir un gouvernement qui est de droite économique? Je regarde actuellement les partis qui sont à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun parti qui est de droite économique. Il y en a un qui prétend l'être, mais qui n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Mais est-ce que le Parti libéral ne pourrait pas s'enligner sur ça, être un peu plus de droite économique? Et pas de droite sociale, mais plus de droite économique. C'est-à-dire un gouvernement plus performant, peut-être plus petit. On fait des coupures aux endroits où on doit couper sans être trop sévère. On est capable de le faire. On serait capable de passer au travail. Il y a une place pour un gouvernement de droite économique ici ou pas? En raison des services qu'on a?
Ben, oui, mais ça dépend ce qu'on entend par droite économique. C'est-tu l'efficacité ou c'est-tu moins d'État? C'est-tu un plus grand rôle pour le privé puis c'est un rôle qui est moins important pour le public? C'est-tu moins d'impôts, par exemple?
En simple payeur de taxes, là, je vais vous répondre, plus d'argent dans mes poches à moi, okay. moins à vous.
Parfait. non, moi, je suis pas au gouvernement. Je suis pas fonctionnaire, je suis pas élu. Moi, je suis dans la même...
Un jour, vous le serez.
Je suis dans la même situation que toi. Je pense qu'on n'est plus... Tu sais, quand on se disait de gauche avant, c'était on investit dans les programmes sociaux parce qu'on pense que l'État peut intervenir, améliorer la vie des gens.
C'est important de le faire.
Si tu étais de droite, tu penchais plutôt du côté de dire ben un peu moins d'État, c'est plus de liberté, les gens vont prendre plus de risques, il y a moins de taxes, moins d'impôts, ça a des avantages. Franchement, aujourd'hui, moi, la question, c'est pas tant est-ce qu'il faut être de droite ou de gauche, c'est quoi le rôle du gouvernement? C'est quoi les secteurs dans lesquels le gouvernement devrait aider les gens? Et c'est quoi les secteurs où le gouvernement devrait se retirer, ne pas taxer les gens, ne pas intervenir, ne pas réglementer? Tant qu'en santé, en éducation, on est assez d'accord, on veut que le gouvernement joue un rôle important puis on veut conserver un système de soins de santé universel. Même chose en éducation. Mais on veut un gouvernement qui est efficace. Alors, en tout cas, pas mal plus efficace qu'aujourd'hui. Moi, la question, c'est pas tant faut-tu moins ou plus d'État. C'est quoi le rôle de l'État? C'est quoi le rôle du gouvernement? Et comment on fait pour avoir des services qui sont plus efficaces? Et ça, il me semble qu'il y a des solutions, il y a des moyens de réfléchir à ça, mais je sais pas si je le catégoriserais comme de droite ou de gauche. Je pense pas, je vais te donner un exemple, je pense pas que c'est responsable qu'un gouvernement fasse un déficit de 11 milliards de dollars. Si le gouvernement ne sait pas bien gérer ses finances publiques, je ne suis pas sûr de savoir comment il va bien gérer le financement de nos services publics essentiels.
Et si seulement c'était juste un déficit parce qu'on a trop dépensé, mais il y a un déficit structurel dans ce 11 milliards de dollars-là. Oui. Ce qui fait en sorte que l'an prochain, ça va être probablement la même chose. Il va y avoir un déficit structurel. On ne sera pas capable de redresser les finances, là.
Non. Moi, je suis libéral, fait que je prêche pour ma paroisse. Quand M. Couillard a quitté, il laisse un surplus de 7 milliards. Je comprends qu'il y a la COVID. Je comprends que... Mais la COVID a le dos large, puis là, ça fait un certain temps que c'est terminé. Tu sais, M. Legault puis la CAQ ne peuvent pas se contenter de dire on a dû dépenser de l'argent. Ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent. C'était-tu nécessaire d'en dépenser autant? Je pense aux baisses d'impôts, par exemple. Je ne suis pas contre les baisses d'impôts, mais la question, encore une fois, c'est comment le gouvernement fait en sorte que nos services soient plus efficaces? Éviter de taxer inutilement les gens, que vous en ayez davantage dans vos poches. Moi, ça me rassure, l'état des finances publiques ne me rassure pas. Et ça c'est un réel enjeu. Ça, je comprends que c'est peut-être moins prioritaire, mais moi, comme citoyen, si l'État ne gère pas bien ses affaires, ça m'inquiète. Parce que ça veut dire... Ça m'inquiète réellement. D'ailleurs, ils sont toujours pas, tu sais, c'est pas clair quand est-ce qu'ils vont retrouver l'équilibre budgétaire ou quel est leur plan, le plan précisément. Ça m'inquiète. Donc, droite économique, moi, je dirais plutôt, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a de la place pour un parti politique qui dit quel est clairement le rôle de l'État, ce qu'on veut qu'il soit public, ce qu'on veut qu'il soit privé, et comment on fait en sorte que les gens en ont plus dans leur poche? Oui. Puis est-ce que ça peut être le PLQ qui devrait proposer ça? Oui.
Antoine Dionne Charest, on va faire une courte pause. Juste avant, j'ai une boutade à vous faire.
Vas-y.
Savez-vous que j'ai un ministère qui est mon ami?
Ah oui?
Voulez-vous savoir lequel?
Ah oui, dis-moi ça.
C'est le ministère du Revenu, parce que même après ma mort, il va vouloir mon bien. On va faire une courte pause. Je vous rappelle qu'on a le plaisir ce soir d'être avec Antoine Dionne Charest, qui est consultant, je le vois rire, qui est consultant.
Qui n'est pas du ministère du Revenu.
Non, c'est ça, qui est un futur candidat libéral et qui est aussi le fils de Jean Charest. Donc, très courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Reg against le matin.
Boulevard 102-1. Bon, ah ouais, lâche la tapière.
Si ça te fâche à ce point, tu pourrais prendre le petit savon puis le mettre dans un petit ziploc puis l'amener à la maison puis l'utiliser jusqu'à temps qu'il n'aille plus. Là.
Ben,
j'ai fait. Bon, ben voilà.
Puis mon chum dit que je suis cheap. Puis je dis, c'est pas une question d'argent.
Maintenant que tu sais ce qu'ils font avec, est-ce que tu vas continuer à le mettre dans ton petit
ziploc? Oui, parce que je continue de penser.
Oui, parce qu'il est cheap.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1.
Cet automne, Boulevard 102.1 vous donne le défi de découvrir la Beauce. Dégustez cidre et cocktails du verger à Tipol, savourez les bières locales de Frampton Brass avec vue sur les sommets colorés.
Amusez-vous au labyrinthe de maïs géant.
Et cueillez citrouilles et courges à la ferme Simon Fortin, à la Bleuetière Goulet, goûtez aux alcools de la maison et cueillez vos pommes. Longez la rivière Chaudière.
Et admirez les paysages flamboyants de la Beauce.
Ouh! Ça grouille autant en Beauce qu'à Boulevard. Planifiez votre visite sur destinationbeauce.com.
Attention, le prochain gros lot du Lotomax est tellement gros que vous pourriez tomber dans les pommes. 80 millions plus 18 max millions. C'est encore un record. Mettez un casque.
Salut Steph. Chez Lévis Chrysler, c'est les meilleurs prix de l'année.
Te crois pas?
Jusqu'à 6 000 $ de rabais sur un Dodge Hornet.
Te crois pas?
15% de rabais sur le Ram 2024.
T'es dit que tu croyais pas?
Une Fiat 500e à moins de 32 000 $.
Te crois pas encore?
OK, mais c'est pourtant vrai, les meilleurs prix de l'année.
C'est chez Lévis Chrysler, pas ailleurs.
Si tu veux les meilleurs, faire pas ton temps ailleurs. Va t'en dire que chez Lévis Chrysler.
Tournez à droite. J'ai dit à droite.
Chérie, trouves-tu que l'auto est un peu bête ces temps-ci?
L'autre droite.
Ben, depuis que j'ai planifié son remisage dans sa clique, j'ai l'impression que...
Tu penses qu'elle sait qu'elle va être remisée?
Ben...
Ce que je sais, c'est que vous venez de rater la sortie.
Votre voiture va s'en remettre. Faites votre remisage par anticipation dans sa clique pour fixer une date à l'avance et avoir l'esprit tranquille. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
La référence pour trouver les meilleures idées sorties, c'est le Passe-partout Service et Bonnechère. Vous l'avez toujours en main? Bonne nouvelle, il est encore temps de profiter des offres. Avec votre Passe-partout, vous obtenez des rabais dans plus de 150 restaurants, activités, services et hébergements. Vous avez épuisé toutes les offres de votre Passe-partout? Procurez-vous une copie directement au bureau de l'Antidote Média au 6500 Pierre-Bertrand, bureau 200. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, visitez lepassepartout.com.
Tu es un électricien compagnon en recherche d'emploi et tu aimerais travailler pour une entreprise dynamique qui offre des horaires flexibles, un camion fourni et les avantages CCQ commercial?
Ben, ne postule surtout pas chez E3 Électricité. La job serait trop le fun. E3électricité.ca.
Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Surtout lorsqu'il est question du programme AEC Combo. En gestion du transport et logistique et en gestion des stocks de la formation continue du Cégep Garneau. Tu y apprendras les compétences propres aux deux domaines qui te mèneront à des carrières stimulantes en logistique. Un choix éclairé pour devenir une ressource indispensable en entreprise. Et si tu t'y inscrivais? Séance des formations en ligne le 24 septembre à 14h et le 2 octobre à 10h. Détails et inscriptions au progresseravecunz.ca.
Hello.
Allô, comment ça va? T'as l'air fâché.
Ah, ça va mal. Ma plus vieille a des cours en ligne puis l'Internet coupe tout le temps.
Attends, là, je t'arrête tout de suite, là. Abonne-toi chez Oricom. Leurs connexions fibres sont pas chères. Tu seras pas déçu puis tes ados, ils bouderont plus.
Ah, t'as raison sur toute la ligne. Hey, tu m'as convaincu. Je règle ça aujourd'hui.
te changer pour Oricom dès maintenant. C'est simple et rapide, comme la fibre. Oricom.ca.
Une nouvelle poutine à saveur country est arrivée chez Ben & Company. Une poutine composée de frites ondulées, de fromage en grains du Québec, de cornichons, d'une tonne de bacon et du délicieux poulet Ben & Company. Le tout enrobé de la sauce à côte levée traditionnelle. Un vrai rodéo pour les papilles.
Vous êtes plombier, vous souhaitez quitter la ville pour le confort de la région? Plomberie Pascal Dumais Inc. agrandit son équipe. À Rivière-du-Loup ou Kamouraska, Plomberie Pascal Dumais recherche un plombier de service pour les projets de rénovation résidentielle et commerciaux et d'un plombier de chantier compagnon. Poste à temps plein, cellulaire et camion fourni. Conciliation travail-famille. Vous êtes autonome, courtois et débrouillard? Vous voulez embarquer? Nous assumons vos frais de déménagement. C'est votre chance. Postulez au carrière.fm.
Des bas bruns? Une cravate? Pas vraiment. Chez Mallette, on porte surtout plusieurs chapeaux. Fiscalité, notariat, juridique, actuariat, intelligence d'affaires, immigration. Découvrez tous nos services au mallette.ca. Mallette, des comptables et bien plus.
Ce samedi, les Remparts rendent hommage à Jonathan Marchessault. Dès midi, festivités pour toute la famille sur la place Jean-Béliveau. Puis à 16h, voyez la levée de bannière de notre légende, suivie du match de vos Remparts. Ce samedi 21 septembre, vivez ce moment historique. Billets au rempart.ca.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, on veut toujours le meilleur pour vous. Profitez d'un taux de financement à 1,99% jusqu'à 60 mois et d'un rabais pouvant aller jusqu'à 1 000 $ sur votre prochain Volkswagen Taos. Vivez la conduite allemande. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
La nouvelle web radio de Boulevard. Parce que ce que ta voisine de cubicule a fait en fin de semaine passée, tu t'en crois. La nouvelle web radio de Boulevard. À deux clics du bonheur.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Mon invité de ce soir, Antoine Dionne Charest, qui est consultant, qui est chroniqueur politique, qui est aussi le fils de Jean Charest. Comment il va, M. Charest? Là?
Très bien, très bien.
Est-ce qu'il mène une vie, est-ce qu'il est dans le sud avec, avec un petit mojito framboise? Non.
mon père aimait beaucoup dire qu'il y a trois choses qui comptent dans la vie, le travail. Je peux te dire, depuis qu'il a quitté la politique, il fait trois choses, mais d'abord... Passer du temps avec sa famille, le travail. C'est sa passion. Lui, ouais. Aime ça. J'aimerais ça qu'il ralentisse un peu, parce qu'il n'y a plus de staff. Il fait tout lui-même. Mais écoute, il aime ça. Puis comme bien des gens dans la vie, ils veulent travailler jusqu'à la fin parce qu'ils aiment ça, sont passionnés. Alors, il est toujours aussi occupé.
Puis quand il écoute la télé, il écoute les nouvelles, il rage-tu des fois en disant « Ah, moi, j'aurais pas fait ça de même. »
Oui. Ben oui, il réagit. Il réagit comme tout le monde, puis il suit l'actualité, puis on en discute ensemble. Mais bon, tu sais, quand t'as été aussi longtemps dans un poste public comme celui-là, forcément, t'as un regard qui est différent sur l'actualité. Mais il suit ça. Écoute, je peux te dire, on en parle beaucoup régulièrement. Il écoute pas toujours mes conseils, des fois. Là. On n'est pas toujours d'accord. Là. J'aimerais ça qu'il m'écoute davantage, mais ça, je pense que c'est l'âge.
Ouais.
À un moment donné, il devient têtu.
Mais c'est la roue qui tourne, parce que j'imagine que quand vous étiez enfant, quand votre père vous disait quelque chose, c'était tout le temps le contraire que vous vouliez faire. Puis...
Oui.
Au fur et à mesure que les enfants, moi c'est ça, là, en raison du billet de proximité, là, quand je leur dis quelque chose, exemple pour le hockey, ça vaut absolument rien, mais si leur coach leur dit quelque chose et c'est la même chose, là ça veut dire quelque chose. Donc là c'est la roue. Là.
La bonne nouvelle, c'est que ça change quand ils grandissent.
Ouais.
Ça change beaucoup.
Antoine Dionne Charest se classifie comment? Est-ce que c'est un nationaliste? Est-ce que c'est un fédéraliste? On le sait que vous n'êtes pas un souverainiste, là.
Je suis très à l'aise avec... je suis un fédéraliste nationaliste. Moi, je crois que le Québec est une nation.
Ouais.
Et je crois que la meilleure condition pour que le Québec puisse survivre puis s'épanouir socialement, économiquement puis culturellement, c'est d'être dans le Canada. Et puis, je pense que le Canada se porte mieux quand on a un leadership fort. C'est pas pour rien que depuis les années... depuis bien longtemps maintenant, il y a des premiers ministres du Canada qui viennent du Québec. Je pense que le pays se porte mieux quand il y a beaucoup de Québécois à Ottawa, à la Chambre des communes, qui représentent les intérêts du Québec, mais qui aussi, parce qu'on est différent, on comprend aussi le reste du pays. Je pense que c'est plus facile pour nous. Bon, en même temps, je suis un nationaliste. Je crois beaucoup à la défense des intérêts du Québec. Je défends beaucoup le projet de constitution du Québec. Et je suis très attaché à la langue française également. Pour moi, ces choses-là ne sont pas incompatibles. Il n'y a pas de, il n'y a pas de contradiction entre les, entre le fait d'être très attaché au Québec puis de s'identifier au Canada. Pour moi, c'est un faux dilemme que de vouloir opposer les deux, puis j'ai jamais pensé qu'on ne pouvait pas se sentir et Canadien et Québécois.
OK. Là, je regardais actuellement là, dans la circonscription de la salle, Justin Trudeau et son Parti libéral n'ont pas été acceptés. C'est le Bloc québécois qui est passé à la salle. Et pour ce qui est de la circonscription à Winnipeg, c'est le NPD qui est passé. Ça va pas très bien pour Justin Trudeau. On regarde les sondages et Pierre Poilievre qui a le vent dans les voiles. Est-ce qu'un Québec peut bien s'entendre avec Pierre Poilievre?
Je l'espère. Franchement, je l'espère. Parce que il est dans l'intérêt, peu importe le parti politique qui est à Ottawa, il est dans l'intérêt du gouvernement du Québec de pouvoir s'entendre avec le gouvernement fédéral pour faire des gains. Donc, moi, je l'espère. C'est très intéressant, la partielle, les deux partielles qui ont eu lieu, une au Manitoba, une et celle à Montréal. Un, les conservateurs n'ont pas gagné, mais ils ont augmenté leur score dans les deux circonscriptions. Au Manitoba, dans Transcona, les néo-démocrates ont gagné. Ils ont une majorité confortable d'un peu plus de 1000, mais les conservateurs ont augmenté leur score. À Verdun et Mort, la salle Verdun et Mort, c'était très serré. Je pense qu'ils ont perdu d'environ 250 et 260, là, les libéraux profitent du bloc. Ça veut dire une chose. Ça, il y a un problème d'organisation. Quand un parti politique là, perd de si peu dans un comté, alors que c'est un comté qui généralement est acquis, ça veut dire qu'il y a eu un problème d'organisation. Et ça veut aussi dire qu'il y a bien des libéraux qui ne sont pas allés voter. Et franchement, moi, je pense qu'il y a des libéraux qui ont voulu envoyer un message à Justin Trudeau pour lui dire il est temps que tu t'en ailles. Et je suis très surpris que M. Trudeau s'accroche. Aujourd'hui, je pense que si le PLC veut se donner une chance de pouvoir gagner la prochaine élection, il serait temps qu'ils aient un nouveau chef. Puis, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ils s'accrochent à ce point. Ça, franchement, c'est un point d'interrogation. Je pense que bien des gens se demandent, il semble qu'il a été premier ministre, il a gagné 3 gouvernements, il a gagné 3 élections, ça fait presque 8 ans qu'il est là, on s'approche de la durée la durée de vie de gouvernement au pouvoir, c'est d'environ 9 ans. À peu près 9 ans, on s'y rapproche. Je suis pas trop sûr de comprendre pourquoi il s'accroche au pouvoir à ce point-là.
Est-ce que l'ego est le pire ennemi d'un politicien?
Ça dépend quel ego. Faut que tu aies confiance en toi, probablement plus que la normale quand tu fais de la politique, parce que les critiques sont violentes, parce que tes adversaires peuvent être très agressifs. Je sais pas si c'est de l'ego. Moi, je pense qu'il faut croire en soi, peut-être plus que la normale. Tu sais, en politique, je pense qu'il faut que tu aies quelques valeurs. Il faut que tu y crois jusqu'au bout. Il ne faut pas y déroger. Tu peux être très bon en élection, mais si tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de conviction, tu n'as pas de principe, quand tu arrives au pouvoir, tu fais n'importe quoi. Et je pense que c'est important aujourd'hui parce qu'on vit dans des périodes. On vit une période qui est assez dure pour les élus. Moi, je comprends que bien des gens ne veulent pas faire de la politique. Mais ça dépend. Un égo à la Trump, je pense que c'est un peu excessif. Oui, parfois l'ego ça peut faire mal, mais il faut quand même avoir confiance en soi. En fait, il faut croire en ses valeurs, pas juste croire en sa personne, là, ça c'est pas passé.
Parce qu'en même temps, l'ego peut aider, Trump ça l'a aidé dans sa carrière, parce que Trump c'est Trump incorporé. Là, puis je me souviens de Denise Bombardier, puis je compare pas les deux, soit dit en passant, c'est pas du tout la même chose, mais je me souviens de Denise Bombardier qui s'était fait poser une question parce qu'on disait d'elle pendant une entrevue qu'elle avait toujours été considérée comme hautaine, avec une forte personnalité, puis elle avait un peu une certaine prétention, puis elle avait dit ben si je n'avais pas cette certaine prétention, je serais pas devant vous et vous m'auriez jamais connu.
Oui, mais c'est un style. Elle, je pense qu'elle a un style.
Mais elle avait une confiance en elle et un ego qui était quand même assez bon pour se présenter en tant que femme et donner son opinion à une époque où des femmes, il n'y en avait pas comme ça à télé, là.
Je pense qu'à l'époque, elle avait le bon style. C'est une femme, c'est une battante. Ouais. Elle avait pas froid aux yeux. Puis je pense qu'à l'époque, oui. Peut-être qu'au Québec, parfois, pouvait être perçu comme étant un peu hautaine. Mais en politique, hein, combien de fois on trouve que quelqu'un est hautain ou a l'air agressif, puis là, on rencontre le politicien dans la rue, on le croise, on va jaser, puis il est très sympathique. Hein. Parfois, on devient prisonnier de sa propre image. Puis franchement, parfois, on n'arrive pas à en sortir. Je pense que, bon, l'ego, oui, l'ego peut faire mal. Mais quand tu es un élu, quand tu veux servir les gens, il y a une petite dose d'humilité que tu dois avoir. Il faut faire attention. Oui, c'est dur, tu as besoin d'avoir le cuir épais quand tu fais de la politique, mais tu n'es pas là pour te servir, tu es là pour servir. Il faut que tu aimes ça. Il faut que tu aimes les gens, il faut que tu aies envie d'améliorer la vie des gens. Parce que si tu es là que pour ta personne, franchement, d'abord, je ne suis pas sûr que tu vas aimer ça, puis je ne suis pas sûr que tu vas être un bon dirigeant non plus.
Parce que j'essaie de trouver les raisons pour lesquelles Justin Trudeau s'accrocherait au pouvoir comme ça. Les sondages sont vraiment pas bons pour lui. L'état dans lequel est le Canada, au niveau économique, c'est catastrophique. Donc, est-ce qu'il voudrait reprendre un dernier mandat pour être capable de remettre ça comme il aurait voulu? T'sais, ou parce que moi, je préférerais rester sur « Bon, ben regardez, j'ai fait quelques beaux mandats, ça a bien été, je termine ma carrière comme premier ministre du Canada, puis il est temps pour vous d'élire quelqu'un d'autre à la chefferie du Parti libéral. »
C'est pas rien, hein? C'est pas rien ce qu'il a accompli. Il a quand même gagné 3 élections de suite.
Exact.
Il a donné une réponse à ça. Puis moi, je pense qu'il est sincère. Il reste, entre autres, parce qu'il veut battre Pierre Poilievre aux prochaines élections. Pour lui, et il le dit publiquement, il considère que Poilievre est un mauvais chef, il pense qu'il est dangereux. Et là, moi, je mets de côté mon avis personnel, tu sais, je te dis vraiment ce que... Parce qu'il le dit, ça. Il le dit. Je lisais des articles, il y avait des bons articles dans le Globe and Mail sur ce sujet-là, sur le pourquoi Trudeau s'accroche au pouvoir. Ce qui revient très souvent, c'est que il considère qu'il est le mieux à même de battre Poilievre aux prochaines élections. Je pense que ce qu'il sous-estime, c'est qu'il sous-estime la volonté de changement des Canadiens. Il sous-estime le rejet que de plus en plus de Canadiens ont de sa personne, que ce soit justifié ou non. Mais ça, c'est une chose qui est très difficile en politique, je pense, pour des gens à son niveau. Et c'est pas, tu sais, c'est difficile pour eux de lâcher le morceau, comme on dit. Et parfois, la seule façon pour eux de lâcher le morceau, c'est de perdre une élection. C'est un peu, je sais pas, peut-être que c'est, y a un petit côté guerrier, puis il se dit, moi, je préfère perdre sur le champ de bataille que de me retirer. Ça se peut. Donc, si c'est ça, je respecte ça. Mais, pour le bien de son parti, puis s'il veut donner une chance à son parti de se renouveler, moi, je pense que ce serait l'occasion. Je pense qu'il aurait l'occasion de quitter, qu'il devrait quitter. C'est pas rien ce qu'il a accompli. Mais écoute, on verra. Peut-être que c'est ce qu'il fera.
Puis pour en revenir à Trump, ou encore tout à l'heure, vous nous avez dit, bon, pour ce qui est des politiciens, c'est pas un air où c'est la relation avec les individus, c'est bien le fun, surtout en ce qui a trait aux réseaux sociaux. Les gens sont extrêmement violents, ont des propos qui, des fois, laissent croire que ces personnes-là vont passer à l'acte. Bon, on l'a vu dans le cas de Donald Trump, là, par 2 fois, on a tenté de le tuer. On n'était pas habitué à toute cette violence-là du côté de l'Amérique, là. Je voyais beaucoup ça du côté de l'Europe, où c'était plus bouillant avec les politiciens versus les citoyens qui étaient dans les rues, puis si je ne me trompe pas, c'était en Pologne où on avait pris des politiciens, puis on les avait mis dans des poubelles. Je veux dire, c'était une catastrophe ce qui se passait là, puis jamais j'aurais pensé qu'en Amérique du Nord, cette violence-là, on la verrait. Tu sais, les gens n'ont plus d'hésitation à s'adresser au premier ministre du Québec quand il fait un tweet, puis à le traiter de toutes sortes de noms, sans aucune gêne. Mm-hmm. Alors qu'avant, jamais quelqu'un se serait permis de dire ça au premier ministre. Là. Je veux dire, il y a une relation de... Bon, il y a certains paliers. Je veux dire, c'est le premier ministre, tu dois de le respecter. Moi, j'ai été élevé comme ça. Là. Mais on dirait que les gens font peu la différence. Ils sont tellement fâchés. Ils se font tellement prendre de l'argent dans les poches, puis ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas pour leur argent, qu'ils se disent, ben tiens, lui, là, je le sais que c'est un être humain, mais je vais lui dire tout ce que j'ai à dire, puis il va le savoir, ce que j'ai à dire. C'est une catastrophe, ce qui arrive actuellement, la violence.
Les médias sociaux, ça permet à n'importe qui de dire n'importe quoi. Alors, il peut y avoir des échanges ou des débats très intéressants, puis il peut aussi y avoir des insultes, des injures et des crachats au visage. Franchement, il y a tout. Il y a le meilleur et il y a le pire. Puis malheureusement, il génère d'abord et avant tout de l'intérêt, des clics, du buzz, des reposts sur les médias sociaux, c'est la colère.
Je veux dire, le maire de Québec se promène avec le GTI, là, donc des agents de police qui font partie du GTI, qui accompagnent le maire de Québec. On n'avait jamais vu ça auparavant. Là.
Non. Puis ce qui me dérange, c'est une chose sur le monde virtuel d'être agressif. Le problème, c'est que ça se traduit dans le vrai monde. C'est-à-dire que c'est comme si ça encourageait les gens à être violents. ce qui me surprend toujours, c'est que tu as des gens excessivement agressifs et violents sur les médias sociaux, puis si tu les croises dans la rue, généralement, ils disent pas la même chose. Puis je trouve ça toujours un peu faible de leur part, là. Franchement, je trouve ça pas fort. Tu aurais juste dû être... C'est pareil d'être en colère et d'être agressif, mais tu n'es pas obligé d'insulter ou de menacer. Aux États-Unis, c'est intéressant. C'est une société qui est plus violente. Et ils ont des tentatives d'assassinat à l'endroit des présidents américains. C'est pas la première fois que ça arrive. Je pense à la tentative d'assassinat contre Reagan, pense à Kennedy, pense à son frère. Ouais. John F. Kennedy, son frère Robert Kennedy a également été assassiné. On pourrait remonter plus loin. Il y a une histoire de violence politique aux États-Unis, mais là, c'est exceptionnel parce que, écoute, en si peu de temps, il y a une tentative d'assassinat contre Trump, une deuxième tentative d'assassinat. Oui, c'est très préoccupant. On sent que la société est profondément divisée et on sent qu'il n'y a pas de solution. C'est comme s'il n'y avait pas, on ne sait pas, il n'y a pas trop de solutions. Puis au Québec,